بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعته. Donc nous poursuivons l'explication du livre intitulé Les quatre règles. Livre écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahmahullah rahmatan wasi'a. Et donc nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur lorsqu'il dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Donc l'auteur ici, par cette phrase, il veut nous montrer quelque chose de très important. Il veut nous montrer ici, ikhwani fillah, que l'adoration est plus générale que l'unicité. C'est-à-dire que l'unicité est plus particulière que l'adoration. Car tout monothéiste est adorateur. Mais ce n'est pas tout adorateur qui est monothéiste. Les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et autres que lui sont considérés comme des adorateurs, mais ils ne sont pas considérés comme des muwahhidoun, comme des monothéistes, car le monothéiste est celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il voue l'ensemble de ses adorations pour lui, alors que l'adorateur ne sera pas forcément monothéiste. Et donc c'est ce que l'auteur veut nous montrer lorsqu'il dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Ensuite, par la suite, il dit rahimahullah, comme Allah le dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit par la suite: ainsi, si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité, tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. Donc lorsque l'auteur il nous dit sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité, tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification, ceci nous montre, ikhwani fillah, la grande intelligence de l'auteur. Car il a mentionné un exemple que tout le monde comprend et que tout le monde connaît. Et il n'y a pas besoin d'avoir un haut niveau dans la science religieuse pour comprendre cet exemple. Tout musulman raisonné sait que la prière ne peut être acceptée qu'avec les ablutions et que sans les ablutions, la prière ne peut être acceptée. Et c'est pareil pour l'adoration. L'adoration, sans l'unicité, ne peut pas être acceptée. Et ceci nous montre l'importance du tawhid. Car sans elle, l'adoration ne peut être acceptée. Et donc ici, l'auteur, il nous mentionne un exemple très simple, très facile à comprendre. Et ça nous montre son intelligence. Mais il est quand même bon de rappeler qu'il y a quand même une différence entre ces deux conditions. Car ici, l'auteur, il a mentionné deux conditions. Il a mentionné la purification, qui est une condition pour la prière, et il a mentionné l'unicité, qui est une condition pour l'adoration. Il est bon de mentionner que l'unicité est une condition bien plus importante. Et ce qui nous montre cela est que celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unicité dans son adoration, les savants sont unanimes pour dire que cette personne sort de l'islam. Mais ici, c'est un jugement général. Quiconque adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quiconque voue une adoration pour autre qu'Allah, sort de l'islam. Et il n'y a pas de divergence dans cela. Par contre, les savants ont divergé concernant celui qui viendrait à faire la prière sans les ablutions. C'est-à-dire, il fait ça sciemment, il fait exprès de ne pas faire les ablutions. Et ensuite, il prie. Certains savants, même si cet avis est faible, sont d'avis que ceci est de la mécréance. Mais l'avis le plus juste, c'est qu'il reste musulman et qu'il a commis un péché. Par contre, le musulman qui viendrait à adorer autre qu'Allah, les savants sont unanimes pour dire qu'il sort de l'islam. Et ceci nous montre que l'unicité est une condition bien plus importante. Bien plus importante. Naam. Ensuite, l'auteur, il dit, et si l'association entre dans l'adoration, elle la corrompt. Tout comme le hadith lorsqu'il entre dans la purification. La question qu'on peut se poser ici est qu'est-ce que l'auteur vise par l'association ? Est-ce qu'il vise l'association mineure seulement ? Ou est-ce qu'il vise l'association majeure uniquement ? Ou bien les deux types d'associations ? La réponse à cela, ikhwani fillah, est que ce qui est voulu par l'association ici, ce sont les deux catégories d'associations. Que ce soit le shirk mineur ou le shirk majeur. Car en vérité, les deux types d'associations corrompent l'action. Mais comme vous le savez, il y a certes une différence entre les deux associations. Car l'association mineure, lorsqu'elle rentre dans une action, elle corrompt seulement l'action dans laquelle elle est rentrée. Par contre, celui qui commet du shirk akbar, ça corrompt toutes ses œuvres. On va donner un exemple. Imaginons que Zayd, il prie la prière du Fajr par ostentation. Donc comme vous le savez, l'ostentation, c'est du shirk mineur, c'est de l'association mineure. Donc sa prière est vaine. Quelle prière ? La prière du Fajr. Alors que ses autres prières n'ont pas été affectées. Au contraire, par exemple, de Amr, qui a invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et invoqué autre qu'Allah est du shirk majeur. Et donc ici, l'ensemble de ses actions s'annule. Et donc ce qui est voulu par la parole de l'auteur, ce sont les deux catégories d'associations. Car que ce soit le shirk mineur ou majeur, ils corrompent l'action. Non. Ensuite, l'auteur, il dit, une fois que tu sais que si l'association se mélange à l'adoration, elle la corrompt, rend vaine les œuvres, et que son auteur sera éternellement en enfer. Par contre, ici, le shir, il vise par sa parole le shirk majeur. Et la preuve à cela, c'est lorsqu'il dit que son auteur sera éternellement en enfer. Et ceci est une caractéristique spécifique du shirk majeur, car c'est le seul péché qui sera la cause que la personne reste éternellement en enfer. Ensuite, l'auteur, il dit, tu sais alors que le plus important pour toi est d'en avoir connaissance en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te sauve de ce piège qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs causes pour être préservé du shirk. Et la première de ces causes, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est certes la voie des prophètes. Et la preuve de cela réside dans le verset 35 de sourate Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer des idoles. D'adorer les idoles. Et donc, l'une des causes pour être préservé du shirk, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait notre père Ibrahim alayhi salam. La deuxième cause et d'étudier le tawhid et son contraire qui est le shirk. C'est-à-dire qu'on apprend l'unicité. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans les noms et attributs. Donc on étudie le tawhid et aussi son contraire. Mais lorsque l'on apprend le shirk, ce n'est pas pour le mettre en pratique, mais plutôt pour s'en préserver et s'en écarter. Le compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le questionnaient concernant le bien, et moi je le questionnais concernant le mal, de peur qu'il m'atteigne. Donc ce sont deux causes pour être préservé du shirk. L'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et étudier le tawhid et son contraire. Ensuite, l'auteur, il dit, donc en espérant qu'Allah te délivre et te sauve de ce piège qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et donc ici, nous allons nous arrêter sur ce verset. Car ce verset est un verset très important. Et ce verset montre la croyance des gens de la Sunna. Et le premier sujet que nous allons aborder concernant ce verset est la réponse à une question. Et cette question est, est-ce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi » certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, est-ce que cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas celui qui fait du shirk Asrar et aussi Al-Akbar, donc ce qui est voulu par cette partie du verset, c'est les deux catégories de shirk, c'est-à-dire le polythéisme mineur et majeur, ou bien ce qui est voulu par cette parole, c'est le polythéisme majeur. Et donc, concernant cette question, les savants ont divergé en deux avis. Le premier avis est que ce verset englobe les deux catégories de shirk. Et cet avis, c'est l'avis de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres parmi les savants. Selon eux, le sens apparent du verset indique qu'il englobe le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et donc, selon cet avis, une personne qui viendrait à mourir sur du polythéisme mineur, forcément et obligatoirement, il ira en enfer. Forcément et obligatoirement, il ira en enfer. Quelqu'un qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'est pas repenti de ce péché. Et comme vous le savez, jurer par autre qu'Allah, ceci est du polythéisme mineur. Donc selon cet avis, cette personne-là va forcément passer par l'enfer. Il va rester un temps en enfer et ensuite il sortira. Ensuite, il sortira. Donc ceci est le premier avis et il se base sur le sens apparent du verset. Tandis que le deuxième avis, et ceci est l'avis de la majorité des savants, selon la majorité des savants, ce verset-là englobe uniquement le polythéisme majeur. Ceci, ikhwani fillah, car en règle générale, ce qui est voulu par le terme shirk dans le Coran, c'est le polythéisme majeur. Et ils ont donné une preuve à cela. Et la preuve qu'ils ont donnée, c'est le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction rapprochée, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera l'enfer, et pour les injustes, il n'est point de secours. Et donc ce verset n'englobe pas le polythéisme mineur, et ceci à l'unanimité des savants, car seul celui qui meurt sur le polythéisme majeur, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis, et donc celui qui meurt sur du polythéisme mineur, lui, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils nous ont dit que, en règle générale, ce qui est voulu par le mot shirk dans le Coran, c'est le shirk akbar et non pas al-asrar. Et donc, ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bi, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire il ne pardonne pas le polythéisme majeur. Une personne qui viendrait à mourir sur du polythéisme majeur, Allah ne lui pardonne pas. Et cette personne-là ira en enfer éternellement. Par contre, celle qui meurt sur du polythéisme mineur, elle est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que soit Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à cette personne et la fait rentrer au paradis, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala châtie cette personne, la fait rentrer en enfer pour la faire ressortir. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste, c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, c'est aussi l'avis de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, et c'est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants sont d'avis que ce qui est voulu par ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi », certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire Allah ne pardonne pas le shirk majeur lorsque la personne meurt sur ce shirk. Le deuxième point qu'il est bon de mentionner est que ce verset est une réfutation à certaines sectes. Parmi ces sectes, il y a la secte des Mu'tazila. C'est une secte qui est apparue à l'époque des Tabi'in. Et le Tabi'i, c'est une personne ayant rencontré un compagnon croyant. Donc lorsqu'il l'a rencontré, il était croyant et il est mort sur la foi. Et donc, cette secte est apparue à l'époque des Tabi'in. Un jour, Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, était dans une assise. Et quelqu'un l'a questionné concernant une personne qui fait des grands péchés. Et donc, Hassan al-Basri, rahimahullah, il a alors réfléchi sur cette question. Et un homme du nom de Wasil ibn Atta, il prit la parole et il dit que cette personne qui fait des grands péchés est entre deux niveaux. Ensuite, il a quitté l'assise. Puis certaines personnes l'ont suivi et de ces gens-là sont nés la secte qu'on appelle Al-Mu'tazila. Et donc, selon les Mu'tazila, celui qui commet des grands péchés dans cette vie d'ici-bas, il est entre deux niveaux. Il est entre la foi et la mécréance. Il n'est ni croyant, ni mécréant. Mais il est dans un niveau qui s'appelle, selon eux, la perversité. Et donc, celui qui boit de l'alcool, par exemple, il n'est pas croyant. Et il n'est pas non plus mécréant. Mais il est dans un niveau, dans un degré qui s'appelle la perversité. Et s'il viendrait à mourir sans se repentir de ce péché, il ne sortira jamais de l'enfer selon eux. Et ce verset vient les réfuter. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors du polythéisme majeur, il pardonne à qui il veut. Donc lorsqu'il dit selon le sens « en dehors de cela », rentre dans cette parole-là les grands péchés. Et donc celui qui commet des grands péchés et qui viendrait à mourir sur ces grands péchés, c'est-à-dire ne pas se repentir de ses péchés, il ne finira pas éternellement en enfer. Car malgré ses grands péchés, il est mort sur l'islam. Aussi, ce verset vient réfuter la secte des Khawarij. Car comme vous le savez, selon la croyance des Khawarij, celui qui fait des grands péchés sort de l'islam. Celui qui boit de l'alcool, c'est un mécréant. Celui qui fait la fornication, c'est un mécréant. Celui qui ment, c'est un mécréant. Et donc, selon eux, à partir du moment où le musulman fait un grand péché, il sort de l'islam. Et s'il ne se repent pas de ce grand péché, avant de mourir, il finit éternellement en enfer. Et ce verset vient les réfuter. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Rentre dans cette parole les grands péchés. Et donc ce verset, il vient aussi réfuter la secte qu'on appelle Al-Khawarij, ainsi que Al-Murji'a. Al-Murji'a, selon eux, selon leur croyance, les grands péchés n'ont aucun effet sur la foi. Selon eux, les grands péchés n'ont aucun effet sur la foi. C'est-à-dire que selon eux, celui qui boit de l'alcool, celui qui fait la fornication, celui qui ment, a et peut avoir la même foi que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. ou que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ou que Othman ibn Affan, ou bien la même foi que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Car pour eux, les péchés n'ont aucun impact sur la foi. Et ce verset vient les réfuter. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, il va pardonner à certaines personnes, il ne va pas pardonner à d'autres. Il ne va pas pardonner à d'autres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché son pardon à sa volonté. Et donc ça nous montre que les péchés ont bien un impact sur la foi. Et ce n'est pas comme peut le prétendre les murji'a. La personne qui fait des péchés, sa foi va diminuer. Sa foi va diminuer. Car comme nous l'avons vu dans les trois fondements, la croyance des gens de la sunna, c'est que la foi augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Donc plus la personne va faire des péchés, plus sa foi va diminuer. Et donc dans ce verset, nous avons une réfutation à la secte des Khawarij, à la secte des Mu'tazila et aussi la secte qu'on appelle Al-Murji'a. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, il dit pour finir cette introduction, et tu atteindras cela par la connaissance de quatre règles qu'Allah a mentionnées dans son livre. Et donc ici, l'auteur nous mentionne que ces quatre règles sont tirées du Coran. Et ceci nous montre la voie des gens de la sunna. Les gens de la sunna, lorsqu'ils mentionnent des règles, ce ne sont pas des règles innovées, comme le font par exemple les frères musulmans ou d'autres sectes, mais plutôt leurs règles sont toujours tirées du Coran. Et donc l'auteur, avant de rentrer dans la première règle, il t'informe que ces règles-là, il ne les a pas pris d'un livre de philosophe, ou il ne les a pas pris d'un livre d'une personne lambda, mais plutôt ces règles-là, il les a pris du Coran. Et c'est ce qu'il incombe à l'étudiant en sciences ou à celui qui parle dans la religion et qui mentionne des choses et qui mentionne des règles. Il doit mentionner ses règles, il doit tirer ses règles du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam.